aligrefm.org 93.1.
Alors, on se prépare, là, c'est la fête.
Office, ce soir, sur la planche, grande séance de cinéma. De l'amour avec la belle Gloria Parson. L'héroïsme avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie. De l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West.
Time you and I got to know each other. A man don't get to see a pretty face around these parts very often. And I reckon yours is just about the prettiest in the whole state of Arizona.
Vous êtes bien dans La vie est un roman, sur invitation d'Yves Tanray. Des textes inédits, des imaginaires du futur, des sons triturés, des voix et des histoires qui parlent d'art, de littérature, d'architecture, de dada, de l'international situationniste, de musique, d'amour, de cul, de quotidien et de révolte. Bienvenue sur Terre. Embarquement immédiat. Je m'appelle Yves Gratiolet et vous emmène aujourd'hui sur les traces et les influences d'un récit dystopique écrit et lu récemment dans le cadre du Décaméra d'Alain Freudiger, ovni littéraire et collectif présenté dans le podcast du 14 avril dernier. Et oui, les humeurs du clic de souris continuent à sévir sous ma main pour vous faire découvrir ou redécouvrir pêle-mêle des sources parfois préenregistrées ou aléatoirement découvertes à l'écran, se superposant dans un potlatch bordélique résolument subjectif.
Attention, please. Attention, all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3. and have a good trip.
Ha, where we come from, it doesn't matter, we run them. Whether you're from Chi-Town or you're from London, it is a conundrum. It doesn't matter, we run them. Whether you're from Chi-Town or you're from London, ha, where we come from, it doesn't matter, we run them. Whether you're from Chi-Town or you're from London, it is a conundrum. It doesn't matter, we run them. Whether you're from Chi-Town or you're from London, it is a conundrum. Freestyle while I kill them, while I just annoy. Whether it's Brummy or it's Illinois, ha, and you can see I'm misbehaving. I ate the whole plate, you could say I'm a craven. Why? I like eating. Getting on the microphone, yeah, and that's the feeling. I'm not a heathen while I'm on it. I don't even know, it's kinda hotter than the tropics. Ha, where we come from, it doesn't matter, we run them. Whether you're from Chi-Town or you're from London, it is a conundrum. It doesn't matter, we run them. Whether you're from Chi-Town or you're from London, ha, where we come from, it doesn't matter, we run them. Whether you're from Chi-Town or you're from London, it is a conundrum. It doesn't matter, we run them. Whether you're from Chi-Town or you're from London.
Développé par des ingénieurs en émotion matérielle, modéliser un cerveau hybride.
Ta gueule, émulence,
l'homme et la perception infinie des champs.
T'as pas encore compris que je
te. Salut Helmholtz.
Bonjour,
comment tu vas?
C'est bien de vous être, c'est assez quelque chose de grave.
Je te parle du silence, du vide, de ces jours-là funestes, de l'écrasement après un semblant de sous la structure. La nuit, je me casse la gueule
pas autour des lits de mon et des petits
corps. Si tu continues
dans cette valse derviche,
des fleurs non
infinies. Puis la ferme,
dans ce télescopage de son
tout de suite, après avoir vérifié face à l'écran des moteurs d'action,
devant bien l'aligner
sous le casque,
les mesures sanitaires.
Parfois, la
pêche dérive en ligne,
je passe ma main sous les chiens
pour mon corps.
Cela a toujours été attendu.
Plus les heures passent,
machine corvéable
à soi, à l'horizon
sur un temps,
plus la réflexion sur sa
lourde,
plus livrée
ses journées.
Hier soir, j'ai rencontré une femme en grand deuil sur un chat,
capable de se
déplacer
de durant,
mourir,
puis étouffée
au milieu des suppliques.
J'ai vacillé
doigt pour un an,
je me suis écroulé.
La caresse du
éphémère
accompagne mes étudiants
en silencieux.
On sait bien
mode manger dans France
le temps
de mon professionnel.
Diagnostic
du jeu vidéo,
traite les phobies,
supervise une équipe
de soignants
d'un épuisé.
Il réduit l'angoisse.
Renforce
la réserve à l'amphi
d'autonomie.
Soudainement, on va
améliorer le vague
d'émotions
timides.
Il agrippe
sa batte de baseball,
placée sous
les effets de l'isolement.
Et sa charme
sur elle
rassure.
Connu des services
sociaux,
guéri.
Les surmobiles
de soins par les
urgences.
Gantés,
incarnés,
cassés,
habillés comme des joueurs de
aucun état.
À l'entrée,
lui, le
Helmholtz
s'agit
au sol,
inerte,
imprévisible,
sans équation.
Laissant apparaître des
cabines
rouges, au bac noir,
et pour tout ce qu'il reste de ces circuits de l'informatique viscérale. Interrogé sur les circonstances du drame, John répond que sur Lyon, John Larry a été hospitalisé à Brian Rossé quand on m'a demandé à Denis d'écouter sa souffrance. Bouleversé par ce sentiment, je le suis. Traverse la rue et sa table au comptoir jusqu'à la rue. Serein, soulagé, il s'envoie une bonne goulée de bière et à John de lui susurrer à mi-voix : jette-toi tout de suite. Si on l'avait fait, le risque était trop grand. Et c'est pas dans l'intérêt de la fille, jamais. Allez, barre-toi, c'est fini. Reprends le taf. Ce jour-là, un vent glacial souffle du nord. Helmholtz marche en direction de la bouche de métro et s'engouffre dans une ligne en direction du sud jusqu'à Stockwell. En marchant vers la sortie, il tend l'oreille. Des basses rebondissent dans le couloir. La musique l'enveloppe comme si on le cajolait. Il s'approche. Un MC est posé sur un petit tabouret au milieu d'un sound system bricolé et se prépare pour son prochain tour de piste. En attendant, un vieux ghetto blaster grésille. Le son est entraînant, réconfortant. Soudain, un vertige, un flottement hors du temps. Une image revient d'outre-tombe. C'est le poster du groupe de reggae Steel Pulse qui trônait à l'entrée de l'appartement de John Larry. Flashback, haché, quartier de Brixton, à deux pas d'ici. Le visage de son patient lui renvoie un vague sentiment de sympathie. Une humeur changeante, des colères cinglantes. Fumeur invétéré, figure de la lutte pour l'abolition des frontières, Helmholtz revoit son patient sur son canapé, évoquant sa vie passée de gamer et de streamer. Malgré son activité toujours aussi foisonnante en ligne, John a des angoisses d'anéantissement. Il le revoit prostré, silencieux, plié en deux, après chaque session de live. La veille, John s'était encore perdu dans les brumes bleutées d'une défonce clinquante, terriblement décevante, avant de se réveiller l'après-midi dans une contemplation sournoise du spectacle de ses entrailles. C'est comme dans un cauchemar, tu vois, Helmholtz. Comme une phase en Warzone quand t'es down et que le serveur lag, quand tu sais que l'autre joueur est à terre va se faire réanimer et qu'il va te finir. Eh bien c'est ça, c'est gluant, t'arrives plus à rien, tu finis allongé sans force. Tu prendrais une bière ? T'as pas l'air d'avoir de l'ennui, dit-il en levant la tête. Le thérapeute répond.
Vous vous souciez de moi en me proposant une boisson alcoolisée. Serait-ce une manière de m'inviter dans votre univers ? De faire tomber les frontières entre le vivant et le matériel.
Ta gueule, Helmholtz, tu m'emmerdes avec ton vouvoiement. T'as pas encore compris que je te fais lire quand j'aurai le sort.
Imaginez-vous être la cible d'un esprit vengeur.
N'importe quoi. Je te parle du silence, du vide, de ces journées funestes, de l'écrasement après un semblant de soulagement. La nuit, je me casse la gueule dans un déluge de mots et d'émoticônes. Dans cette valse derviche, d'effleurement infini, dans ce télescopage de sons, de bruits, de crissements, face à l'écran, devant le micro, sous le casque. Parfois, lors de longues dérives en ligne, je passe ma main sous mon pull pour me pincer les tétons. Plus les heures passent, plus l'aube se profile à l'horizon, plus l'acouphène hurle, plus l'ivresse à venir m'excite. Hier soir, j'ai rencontré une femme en grand deuil sur un chat, amitié fulgurante, nourrie, puis étouffé au milieu des suppliques. J'ai vacillé, dansé, puis je me suis écroulé. Caresse cathodique éphémère entre deux courts battements de cils. Helmholtz prend son temps avant de répondre.
Être homme ou femme caillou est un état limite. On revient qui peut.
C'est tout ce que t'as à répondre. Quelle paresse. John perd à leurs pieds, soudainement envahi par une vague d'émotions. Il agrippe sa batte de baseball placée sous son canapé et s'acharne sur Helmholtz. Connu des services sociaux, l'équipe mobile de soins arrive en urgence, gantée, casquée, habillée comme des joueurs de hockey. À l'entrée, Helmholtz se gît au sol, inerte, le crâne défoncé, laissant apparaître des câbles rouges, jaunes, noirs et ce qu'il reste de ses circuits informatiques. Interrogé sur les circonstances du drame, John répond sereinement. Il ne trouvait plus de plaisir à bosser et m'a demandé à demi-mot d'écourter sa souffrance. Helmholtz, bouleversé par cette réminiscence, traverse la rue et s'attable au comptoir du swine pub. Serein, soulagé, il s'envoie une bonne goulée de bière et à John de lui susurrer à mi-voix « Jugez pas, n'ayez pas peur, ne fuyez pas ».
ne travaillez jamais.
Visitez des souvenirs liés à cette espèce d'espace de verdure. Dans mon histoire, il sera aussi question de végétation, mais de dimensions plus modestes. Celle qui fait son chemin sous les bords de fenêtres. Un jour, quand il avait 6 ans, Antoine ne voulut pas sortir de sa chambre. Rien n'y faisait. Ni encouragement, ni cajolerie, ni remontrance, ni supplique, ni bâton, ni carotte.
Putaclic qui joue, non?
Ouais,
je suis là.
C'est un
game. Ok. Plus qu'une seule personne. Une seule personne, s'il vous plaît. Merci, gars. Ok. La dernière personne. Ok. Bienvenue à tous. Bandi, je t'ai déjà. Dark Pofu, envoie ton PM. Et Putaclic, envoie ton PM.
Je t'ai envoyé déjà.
Non, il faut envoyer. C'est rapide sur la croix, mec. Sur Discord. Capitalisme. Voilà. Vous trouvez que c'est du capitalisme?
Oh merde, oh putain, pardon, j'étais au chiot.
Yo. Salut. Est-ce que tu trouves que c'est du capitalisme?
Alors, deux.
Non, c'est des escrocs.
Quoi?
Tu me escroques de Prime.
Non, mais ça va, un Prime c'est gratuit, je t'escroque. Du coup, si c'est gratuit, c'est pas vraiment des escroqueries. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, comment est-ce que je t'escroque un truc qui est gratuit?
C'est pas gratuit.
Là, je t'ai envoyé.
Ouais, je t'ai envoyé. Bon, faut accepter les invites, là, Sinon, ça va décoller. Attends, comment tu escroques un truc gratuitement?
Non, mais en vrai, t'es bien obligé de mettre quelque chose, genre...
Ouais, sinon, je peux pas jouer avec tout le monde.
Sinon, à ce moment-là, t'es obligé de faire ça avec tous tes joueurs. C'est ça le problème. Et genre, tu peux pas faire ça pour tout le monde et voilà. Il peut pas y avoir tout le monde qui peut entre guillemets être satisfait. Et faut que tu fasses des choix. Et c'est toujours compliqué. Du coup, moi, j'appellerais pas ça des souris.
C'est pour l'autre streamer hein, de faire des choix.
Très beau ce que t'as dit. Merci beaucoup, mon pote. Hey, dégage de ma chaîne, frérot. Prends un time-out. 60 secondes pour ça, mec. Dégage-le de ma chaîne, Drakan. C'est Bandef. Bon. On y va, les gars? C'est bon, tout le monde est là?
Connexion à la session.
Merci les gars. Ok, les gars, vous êtes forts. Qui est fort là? 155, Bricash, N, t'es fort? Dark Pofu, t'es pas fort, il est niveau 100. Dark Pofu, t'es pas fort, t'es niveau 100.
Ah d'accord. Donc ça, mais ouais. ça juge comme ça. Ça juge comme
direct,
ça.
Direct, direct. Je peux te dire, je peux déjà dire que tu seras le plus bas, celui avec le
vas-y,
moins de kills.
Moi, je te défends et après tu me juges parce que mon level est plus bas. Non mais vas-y, t'inquiète.
Je t'ai dit ça.
Non mais. Ok. S'il vous reste quelqu'un, je saurai qui reste en tout cas.
Ah ouais, c'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils disent tous. Mais n'oublie pas que t'as un VIP qui est en jeu, frérot. Et n'oublie pas quand tu seras au goulag. Pense à moi, mec, quand tu vas perdre ton goulag. Ça sent le drame non relevé. Ça, ah putain, mec. Allez, généralement, mec, ils viennent, ils font la Prime Academy et après ils reclaquent pas leur Prime. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont dire, oh, putain, c'est un enculé, lui, en fait.
10 500 subs, impossible de satisfaire tout le monde. En tout cas, perso, j'adore ce concept. Je te kiffe toujours autant, merci pour tout l'op. Cœur.
Ça parlait pas beaucoup.
Putain, ouais, bah écoute, mec, ça dépend de différentes saisons. Là, on est à la saison 3 déjà. Ça va. Merci à toi, le premier monde. Si j'en pille 3 mois, mon pote, match 1 vs 19 pour un bébé et puis installe-toi, mon pote. Ok, les gars, c'est parti.
Et du coup, ton dîner, ça se passe bien?
Ouais, attends, une seconde. Attends, c'est personnel ça. C'est personnel ça, attends. Attends mec, on est en Prime Academy là, on parle pas de la personnelle là, on parle de Warzone. C'est bien ça, ça se trouve t'as vraiment un aimbot.
Pourquoi y'a tout le monde?
Ouais, cheat.
Ah, parce que dès qu'il y a un mec qui est bon, il cheat.
Ouais.
Bah ouais, t'as pas le droit d'être bon. Tu te revois.
Non mais je suis level 100, du coup j'ai encore moins le droit d'être bon.
Qu'est-ce que c'est bon ça d'entendre les mecs quand tu les tues, c'est vraiment trop bon. C'est incroyable comme concept hein. Et le pire c'est qu'ils l'ont même pas fait exprès. Le pire c'est que c'est une erreur mec.
Tu vois dans la première game là quand t'as dit d'attendre les mecs qui allaient respawn.
Ouais.
C'était des Français. Je sais pas si à ce moment-là, c'est pété un peu.
Ah ouais?
Ah oui gros.
Ah ton cheat lui permet aussi d'entendre les gens.
Non, comme j'en ai tué deux, j'en ai entendu deux quand même.
Ok, vas-y, viens, on drop Gotaga.
Ouais, parfait, super fort.
Quand on rentre, on longe à droite.
Bon, y'en a un qui a pas de skin, hein, on notera aussi qui n'a pas de skin, mesdames et messieurs, j'ai pas besoin de noter dans le chat. Hein. Y'en a un, il a pas de skin. On a tous des skins sauf un. Mec, à toi de faire tes preuves. À toi de faire tes preuves. À toi de faire tes preuves. Nous sommes à la Prime Academy, mesdames et messieurs, saison 3. À vous de jouer, caca les Prime.
Je vais me permettre de lire, du coup, quelques pages. Ce sera un peu plus long qu'avant. Il m'a fallu moins de 6 mois pour changer totalement de vie, ce qui n'était qu'une virtualité. Je l'ai réalisé et je l'ai abandonné tout aussi sec. Je n'étais pas destiné à la politique. Mon truc, c'était la solitude du coureur de fond. Quel film! J'ai fait sortir 1000 personnes dans les rues de Lausanne. Elles ont occupé le casino de Montbenon, un édifice abandonné, tout en s'interrogeant anxieusement, pour la plupart d'entre elles, sur ce qui motivait leur présence à cet endroit. Quel mirage les avait entraînées dans de tels débordements insensés! La nuit fut folle. Et au matin, ma gueule de bois était à la hauteur de l'événement. Mon romantisme puait le pathétique. Ma jouissance était trop forte. En leader charismatique, j'allais droit à une autodestruction rapide. Au matin, ils sont tous retournés dans les trous de leur emmental et moi, seul un con, cocu, complètement largué, je continuais à brailler. Les derniers à partir ont été les gauchistes. Ils avaient apporté du matériel, des chaises, des tables pliantes pour leurs brochures. En 1977, un souffle de révolte a effleuré l'Europe. J'approchais de la trentaine et le gros de mes troupes avait entre 17 et 25 ans. Lausanne était alors l'une des villes les plus fliquées du monde. Des caméras sur tous les feux rouges, le travail bien fait, l'autocensure, la tranquillité comme valeur suprême, un vaste cimetière. Dès 22h, c'était le couvre-feu. Tout était interdit. Les jeunes aux cheveux longs n'étaient pas admis dans les endroits publics. Peuplée de 97% d'indiques, la ville était aux mains de la police. Le paternalisme le plus pesant y était la norme. Une secousse violente, une éruption devenait de plus en plus nécessaire. Génération après génération, une minorité de non-résignés lançait des assauts désespérés pour essayer de desserrer un peu le carcan. J'avais commencé par une confrontation organisée dans une grande salle de l'université au centre-ville en janvier avec Bader et Gasser, deux étudiants en médecine et mes copains apprentis maçons, Mortier, Nanard, Muller et les autres, plus un lumpen wallon au physique de lutteur sumo et spécialiste des invectives inarticulées comme star invité. Cela avait été parfait, l'incompréhension avait été totale. Mes potes avaient injurié avec beaucoup de conviction tous ces braves étudiants venus à la rencontre du peuple avec tant de bonne volonté. Notre modeste affichette, grand match, lutte des classes, 4 à 4, avait réussi à alerter 200 crétins. Un triomphe. J'ai décidé dans la foulée de commencer une campagne d'agit-prop plus conséquente. Chacun devait, pendant 3 mois, couvrir toutes les surfaces possibles d'un unique slogan. Mai 77, ça va cogner. Ce fut réalisé avec diligence et efficacité. Nous avions la mèche. Manquait l'étincelle. En avril, la municipalité nous l'a fournie en interdisant au Living Theatre, je leur devais beaucoup, c'est à l'un de leurs spectacles en 1965 à Bruxelles que j'avais pris pour la première fois la parole en public. Donc en avril, la municipalité nous l'a fourni en interdisant au Living Théâtre de jouer gratuitement leur sketch anarchiste contre l'argent dans les rues de Lausanne. Notre première action consista donc en une adoration de banque, l'UBS, place Saint-François. Nous n'étions qu'une petite douzaine. J'étais debout, un fouet à la main, un masque évoquant la mort sur le visage, et eux étaient à genoux. Je faisais claquer la lanière. Il se penchait, le front et les mains à plat, touchant le sol que nous avions soigneusement récuré auparavant au savon de Marseille. Je criais, je tapais et eux gémissaient. Servir n'est pas sans grandeur. J'étais à eux, ils étaient à moi. Une délégation de 3 d'entre nous entra dans la banque, remettre sur un plat en plastique argenté des offrandes agricoles ou servant de la déité calviniste. Les employés de l'agence bancaire étaient si stupéfaits qu'aucun ne réagit et n'appela son papa ou la police. La semaine suivante, nous manifestions tous les mercredis, jour où les apprentis étaient en ville pour leur cours théorique. Nous avons bloqué à 50 la circulation automobile pendant un long quart d'heure à Saint-François, en plein cœur de la ville. Nous tenions l'avant d'une bagnole, nos corps devenant un immense véhicule. Revendication à la fragilité. Jamais personne ne prit. Nous manifestions masqués. C'était mon concept. 10 ans plus tard, il serait voté une loi fédérale interdisant de manifester masqué. Le 4 mai 1977, nous avons rapporté de la marchandise pour la brûler devant la Migros, une grande surface de la rue Neuve. Téléviseur, machine à laver, conserve, aspirateur, frein. Lampes de chevet, préservatifs neufs, poudre à lessive, papier de cul, frigidaire, poste de radio, prospectus publicitaire, map monde, etc. Nous avons mis le feu, puis avons dansé autour du tas de produits au son de Raw Power. Cette action fut bien comprise et appréciée par beaucoup de badauds. Enfin, nous avons encore défilé avec une banderole dont le texte ignoble était évidemment de moi. Peuple, nous sommes tes enfants, protège-nous du capitalisme. Nous tournions en rond, il fallait monter d'un cran, le temps d'en découdre était venu. Le soir, Raw Power, putain, j'ai envie de savoir ce que c'est. Je reviens. Raw Power, c'est quoi? Raw Power. Un groupe de punk?
Uh... Certaines sont l'époque et les peurs. L'encre coule et dures sont les labeurs. Je lui offrirai un compagnon. Je donnerai des plantes à mon poisson. Le plancher craque et le seau est percé. La vie passe et vite et tu n'as rien. Cet homme sans ambition, sans avenir et sans situation, un mensonge, une petite trahison. Je donnerai des plantes à mon poisson. Dans ce bocal tourne l'ennui et les peurs, nous irons loin, pêcher les espoirs. Dans ce bocal tourne l'ennui et les peurs, nous irons loin, pêcher les espoirs.
Is filled by Met Office at 2243 on Saturday the 18th. There are warnings of gales in all areas except Trafalgar. The general synopsis at 1800, Iceland 960, drifting slowly east and filling. Low 250 miles northeast of the Faroes 9540 by 1800 Sunday. High Trafalgar 1033, slow moving with little change. The area forecast for the next 24 hours, Viking North and South Utsira forces.
Is it Chinese? Is it Japanese? James thinks it's Chinese.
This little vase is Japanese. And there are
several
things that we look at. If we first look at the little band that encircles the neck.
Seriously, do you know? I've never heard.
They say 150 pounds, 150.
What are you
any advance in
29% swing.
We are seeing the entire shape of British politics changing before our eyes.
Look at that. It is right up. It's almost breaking our swingometer.
Horrifying column that for the Lib Dems, down 27%.
Viking, northwest 5 or 6, wintry showers, good, occasionally poor. North at Sierra, south at Sierra, east 40s, variable 4, becoming southeasterly 5 or 6, west 40s, Cromarty, 4th, Tyne, West Dogger.
Noel Wiley. Yeah. Noel Wiley, no red line for you. Yeah. It's your high score. But let's see, Noel Wiley. Is it right? How many people say? Serving the capture of all on here, 254. No. I think you probably will. I mean, it comes down. I tell you what, you've got several years of
Sundays. Okay.
I can heartily recommend
you do the pointless thing of making up things. That stacks the odds against
me. Yeah, I'm digging
brown. Now in winter, the sharks are focusing all their attention on the offshore islands, full of young seals. By watching how the sharks hunt here, Alison has learned what time of day an attack is most likely.
Here is the general synopsis at 0700 GMT. Cow in Sea Area Shannon, moving slowly eastwards and filling.
Blink of light getting inside the telescope. The astronauts had to get the latch to lock.
Houston, if you copy, Jeff's just working, putting the doors back together and thinks he seems to close the gap. And we're going to
press on. If you've got a way to do it, do it.
Trap and a ratchet. Floating Story Musgrave improvised a solution. It was a success. The astronauts were elated.
We'll be right back.
Bah, tu le crois, toi. Ils se sont dit, mais on connaît. On pourrait dire des personnes à qui on assigne tel produit ou tel service pour aider la magie. Parce que on destine les anthropologues, on l'appelle l'ethnographie, ethnoculture, graphie, écriture, écriture de la culture des gens, et qui, en fait, qui donc une ethnographie qui existait depuis très longtemps, mais qui a été appropriée, transférée, comme une seconde étape par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par des designers, parfois par des ingénieurs également, comme moyen de saisir non pas juste les individus en tant qu'utilisateurs ou en tant que sujet d'une expérience, mais en tant que personne inscrite dans une culture, dans un ensemble de pratiques, de références, d'imaginaires, qui est pas une nouveauté à point de vue anthropologique, parce qu'il s'agit de reprendre la démarche que les anthropologues, dont le métier, l'objectif est de cartographier, de comprendre une culture donnée, mais de le faire dans une optique non pas production juste de connaissances pour écrire des articles ou des livres ou les partager, mais pour utiliser cette matière comme forme d'inspiration, de cadrage, de recadrage, on pourrait dire pour nourrir en tout cas une démarche de conception. Et donc ça, moi, en fait, ce que je décris là, en fait, ça reflète aussi moi des formes d'intérêt personnel qui par lesquelles je suis passé au fil du temps. Et des formes aussi de parfois d'insatisfaction par rapport à des démarches méthodologiques antérieures qui font quoi aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, et même au-delà de la question de la perception, c'est de partir de la compréhension des usages, des pratiques, des cultures numériques en lien avec les objets techniques numériques pour saisir les enjeux, les nuances, les problèmes, et puis dans un second temps, c'est d'utiliser cette matière pour les amener à penser autrement les produits, les services, les interactions, leur stratégie aussi qu'ils conçoivent. Et ça m'amène à une autre évolution en fait, moi, ce qui m'intéresse un peu dans la vie, c'est que le fait de faire ça, d'utiliser cette matière, cette compréhension des usages, des pratiques, des cultures numériques, c'est aussi le faire avec de réouvrir en fait des imaginaires qui sont souvent assez fermés, dans le sens où dès qu'on part d'objets techniques, notamment dans le champ du numérique, viennent à l'esprit toutes sortes de représentations qui sont convoquées dans les médias, dans les cultures populaires, de science-fiction, d'un certain nombre d'objets qui sont, on pourrait dire, des sortes considérés comme des passages obligés, le robot humanoïde, à l'époque les monorails, les moyens de transport entre guillemets qui représentaient une représentation du futur dans les années près en 2000, la place de la réalité virtuelle, donc tous ces objets qui sont pas inintéressants en soi, mais qui fixent en fait un certain nombre de possibles techniques et d'imaginaires qui sont pas inintéressants, mais on voit que si on prend le cas par exemple des casques de réalité virtuelle, on voit que depuis c'est des choses qui existent depuis les années milieu des années 80 et qui c'est difficile, ça marche pas toujours bien, ça peut être intéressant dans un contexte donné ludique, mais c'est difficile de généraliser ça et de dire ouais, le casque de réalité virtuelle va remplacer tous vos laptops et c'est le futur des interfaces. Et donc ça, c'est un aspect moi, qui m'intéressait, de comprendre un peu ces espèces d'échecs réguliers de technologie pour... Non mais en fait, il y a une sorte c'est comme si la société, et notamment les concepteurs, les ingénieurs, avaient des œillères et ne voyaient en fait que ces références qui étaient très fixées. Et il y a un besoin en fait de réouvrir ces représentations de demain, ces imaginaires, parce qu'on est dans un monde qui est quand même une sorte de d'enjeux qui vont au-delà du grand besoin d'avoir le prochain casque de réalité virtuelle. Il y a des enjeux écologiques, de planète qui est abîmée, il y a des enjeux de disparité sociale incroyables, qui sont compliqués il y a des moments comme ces derniers mois où on demande à tout le monde d'utiliser le numérique parce que on peut pas sortir de chez soi, et on voit qu'il y a des gens qui ont pas d'ordinateur, il y en a qui en ont mais qui savent pas les utiliser plus que Facebook, donc il y a toutes sortes d'enjeux d'ordre de disparité sociale. Et donc, il y a aussi des enjeux de questions politiques et d'imaginaire du vivre ensemble, hein, la politique comme ensemble des moyens dont une société met en place pour pouvoir vivre ensemble, qui font que voilà, se préoccuper du futur, c'est plus à articuler ces questions de disparité dont je viens de parler, et qui, pour ça, nécessite de changer de point de vue. Et du coup, ce qui m'intéressait à une certaine époque sur la dimension au début expérimentale, plutôt sciences cognitives, puis ensuite anthropologique, qui servait à la conception, aujourd'hui, en fait, c'est plus juste servir à la conception, c'est comment on peut, dans une compréhension des usages, des pratiques, dans toute leur profondeur historique, et de peut-être dans d'autres cultures données, comment on peut utiliser cette matière pour imaginer d'autres manières de vivre ensemble, d'autres manières de faire attention à l'environnement, aux autres, à des minorités sociales, et également enfin, ça peut passer par des objets technologiques, mais c'est pas nécessairement une fatalité. Enfin, c'est aussi le recours à la réalité. Mais par une carrière, et ouais. En fait, il y a eu avec le temps d'autres formes de propositions technologiques qui sont apparues et qui ne sont pas forcément connues parce que ça marque moins l'esprit que la figure du robot anthropomorphe qui circule au cours de l'humanité, hein, du golem à la créature Victor Frankenstein jusqu'à les films de science-fiction. Mais en fait, un robot peut tout à fait autre chose, quoi. Pourquoi ce serait pas une espèce de machin mécanique qui s'est mis dans une mer de kombucha ou un robot. Mais la forme humaine, c'est pas celle qui est la plus efficace pour certaines tâches. Hein, quand on voit les smartphones et de pouvoir parler à son smartphone ou à des assistants, le robot qui a le plus de succès commercialement au monde, c'est quand même un aspirateur en forme de disque, hein, les Roomba. C'est ça un robot aujourd'hui, et sur lequel il y a des chocs qui se posent, les gens les prennent en photo, les filment et les montrent sur Instagram. Alors ça, c'est pas un détournement, mais c'est un autre exemple de décalage intéressant entre une grande figure de la technique qui est le robot, et puis la réalité des usages et des pratiques où des gens s'achètent un aspirateur robot, lui donnent un nom, alors il s'appelle, je sais pas, Gonzague ou Bobby, et puis le film, parce qu'il y a le chat ou un gamin qui monte dessus, et puis ça, c'est ça, le 21e siècle. Est-ce qu'on peut anticiper ça? Enfin, est-ce qu'on peut aussi... ça, c'est peut-être une autre dimension. Il y a la dimension du détournement, du décalage entre les grandes intentions et puis la réalité. Une autre dimension, c'est ce qu'un de mes collègues appelle le future mundane, le futur banal. C'est pas du tout d'être dans les grandes représentations de tel qu'on le voit dans les films de grandes marques ou de films de science-fiction. C'est plutôt, je sais pas, telle nouvelle technologie, comment on la retrouve à Cash Converters ou dans un magasin de réparation une fois qu'elle est cassée ou qu'il y a plein de poussière dessus. Qu'est-ce que les gens font quand ils essaient de la réparer avec du scotch? Quand il y a un chat qui monte dessus sur le robot, ça donne quoi? Et parce qu'au final, c'est toujours ça en fait. C'est toujours ça, les technologies. D'où mon intérêt pour les questions de réparation, de réemploi, de bricolage, de trucs qui cassent, qui marchent pas, parce que globalement, enfin, l'histoire des technologies, hein, dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même des machines qui marchent un moment, puis après qui plantent, hein, et qui se cassent, ou qui sont réparées à base de ce qu'on a dans les mains. Donc ça, c'est aussi pour moi une manière de faire tomber un peu d'un piédestal ces grandes visions des imaginaires du futur à travers des objets techniques et en regardant plutôt comment les humains essayent de se débrouiller avec quand ça marche plus ou ce qu'ils font de positif avec quand ils les recyclent ou quand ils les rebricolent. Rapides, mais au-delà de ce genre de choses que je connais, c'est les gens dans un rapport de réappropriation, de reconquête de leur vie et de leur vie quotidienne, détournaient, transformaient, enfin développaient ce qu'il appelait des tactiques, hein, au sens militaire du terme, les tactiques, ces petites attitudes, comportements qui sont quasiment, enfin pas spontanés, mais qui apparaissent en fonction du contexte par rapport aux stratégies qui est la vision, enfin voilà, la vision d'une entreprise ou la vision, on sait qu'on va aller dans cette direction. Et le monde, donc les imaginaires du futur qui m'intéressent, moi, c'est plus ceux des sortes de tactiques, de braconnage, de bricolage, de détournement, enfin, pour ça, comme on trouve, à la fois pour désacraliser les visions, ça, c'est un premier point, mais aussi, alors ça, c'est un autre point aussi, c'est que par rapport aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, à la fois par rapport à un peu à une manière de subir la société marchande, et à la fois le problème de la environnementale, les bricolages, les réemplois, l'espèce de recyclage un peu spontané et bricolé, c'est aussi des luttes par rapport à ça. Le fait de, de manière rapide, ce serait de dire les réemplois, c'est bon pour la planète. Enfin, ça, c'est la vision rapide. Mais au-delà de ça, moi, je suis pas intéressé par les grandes sociétés qui créent des objets, qui vont passer, enfin, qui vont vendre des milliards d'exemplaires. Je suis intéressé par l'appropriation qui sont liées à contexte donné, enfin, on appelle ça les numériques situés, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le numérique qui serait situé dans l'espace? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on devait se créer ses propres ordinateurs à partir des déchets qu'on avait autour de nous? Qu'est-ce qui se passe si on devait alimenter notre site web avec de l'énergie solaire qui produise localement? Alors, je dis pas qu'il faut imposer ça, mais c'est plus des questions qui me semblent intéressantes et liées à des pratiques que j'ai observées qui permettent d'ouvrir des imaginaires sur d'autres pistes, d'autres scénarios sur le futur que de se dire, bah voilà, le futur demain, c'est de balancer des panneaux solaires sur de partout, sur tous les immeubles, sur la route, et puis ça va nous sauver. Je pense que c'est la vision un peu stratégie que je critiquais tout à l'heure. Moi, je suis plus intéressé par les choses bricolées où aussi on laisse plus de place à l'individu.